Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que c'est toujours une joie pour nous de partager la parole de Dieu. Oui, même si nous sommes séparés physiquement, nous savons que nous sommes ensemble de tout cœur. Comme le pasteur le disait, je vais lire la parole de Dieu et quelques versets bibliques dans Jude. Le premier et le deuxième verset. De la part de Jude, qui est serviteur, qui est au service de Jésus-Christ, et qui est frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés par Dieu, qui sont aimés par lui, le Père, qui sont gardés par Jésus-Christ, que la bonté, la paix et l'amour vous soient donnés en abondance. Verset 25 qui nous dit ceci. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, sont la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité depuis toujours, maintenant et pour toujours. À l'occasion de la crise suscité par le COVID-19. Le philosophe André Comte-Sponville a partagé avec ses auteurs, ses auditeurs et ses lecteurs des réflexions intéressantes sur la panique, surtout légitime, provoquée par la pandémie. Il dit ceci à ses auditeurs. Le coronavirus nous a contraints de faire face à une réalité que nous cherchons coûte que coûte à occulter, la mort. Il dira, pour faire peut-être rire ses comptables, il dit ici, j'ai deux nouvelles à partager avec vous, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, nous allons tous mourir. La bonne, l'énorme majorité d'entre nous mourra d'autre chose que de la COVID-19. La finitude, l'échec, les obstacles font partie de la conviction humaine, la condition humaine. Tant que nous n'aurons pas accepté la mort, nous serons affolés à chaque épidémie. Admettre la réalité de la mort est donc se donner les moyens d'apprécier la vie. C'est ainsi que nous aimerons la vie parce que nous prendrons davantage conscience de sa brièveté, de sa réalité. Nous aimerons la vie parce que nous prendrons davantage conscience de sa brièveté, de sa fragilité et de sa valeur. En d'autres termes, nous devons tirer le meilleur parti de l'existence humaine, car il n'y a rien après la mort. Une telle prise de conscience nous permet, dit-il, de vivre plus intensément, tout en reconnaissant que la santé n'est qu'un moyen pour atteindre le bonheur et non une fin en soi. En effet, la santé n'est qu'un bien et ne peut en aucun prendre place des grandes valeurs telles que la justice, l'amour, la générosité, le courage, la liberté. Je m'arrête. Quand nous relisons cette lettre, nous sommes frappés vraiment ici, dit, nous devons tirer le meilleur parti de nous-mêmes, de l'existence humaine, car il n'y a rien après la mort. Qu'est-ce que nous constatons dans ces propos, frères et sœurs? Il y a de la sagesse, oui. Son insistance sur les caractères précieux de la vie terrestre les limites, les fragilités de la vie humaine, les valeurs et les principes éthiques qui donnent sens à la qualité de l'existence. Mais c'est vrai, quand nous remarquons ce que nous remarquons, son approche donne l'impression qu'il est redevable à l'héritage judéo-chrétien. C'est vrai, il a une certaine influence dans le monde chrétien, ce philosophe. Mais malheureusement, nous voyons ici dans ses pensées qu'il rejette le Dieu souverain et personnel. Il rejette la continuité de la vie après la mort physique. L'apôtre Paul dira à quoi sert la mort, à quoi servit la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il dit, si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement dans cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les êtres humains. Nous sommes les plus malheureux de tous les êtres humains. Si nous mettons notre confiance, qu'on dira qu'après la mort, tout est fini. La Bible déclare avec force, après la mort, vient le jugement. Jugement dans une autre vie. La Bible dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même en fonction de ce qu'il aura fait ici-bas. Une vie, on rendra compte en fonction de ce que nous avons. Donc il y a une autre, il y a une vie après la mort. Oui, nous aurons des comptes à rendre. Ceux qui ont mis leur confiance en l'œuvre de Jésus-Christ, la Bible nous dit, ils sont gardés pour Dieu en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, l'expérience, ce que nous avons fait, cette expérience, en mettant notre confiance en Dieu, au Fils de Dieu, ce Dieu fait homme, nous sommes préservés du jugement de la fin des temps. Il y a une chose que nous reconnaissons, l'être humain, la Bible insiste là-dessus, la fragilité de l'être humain à cause du péché. Oui, le péché est entré dans le monde. Mais ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, en l'œuvre, cette œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, sont gardés par Dieu et vivront pleinement la joie et la rédemption du retour de Jésus-Christ. Il vient bientôt chercher ses frères et sœurs. Jésus, avant de monter au ciel, rencontre une de ses servantes, Marie Magdala. Mais Jésus va lui dire, va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, je monte vers votre Père. Je monte vers Dieu, vers mon Dieu, je monte vers votre Dieu. En attendant ce retour glorieux, oui, frères et sœurs, la parole de Dieu nous interpelle ce matin sur deux points sur lesquels j'aimerais insister. Un appel à la vigilance. Car l'ennemi de nos âmes s'est infiltré dans le corps de Christ, dans l'Église de Jésus-Christ. Et nous verrons comment cet ennemi s'est glissé, la Bible dit, il s'est glissé dans le corps de Christ. Un appel à la vigilance, un appel au combat. Oui, un appel au combat. Il peut nous arriver en tant que chrétien de pratiquer la politique de l'autruche. Je ne vois rien, je ne comprends rien, je n'entends rien. On ferme les yeux en disant, tout passe, j'attends ce retour glorieux. Oui, il y aura ce retour glorieux, mais la Bible nous appelle au combat. Nous sommes gardés par Dieu pour Jésus-Christ, mais nous ne pouvons pas rester passifs en attendant ce jour de gloire. Oui, le combat que nous menons, le combat que nous sommes appelés à mener est complètement différent de celui mené par les États séculiers. Mais il est différent de ce que mènent les terroristes. Et quand on parle de terroristes, il y a terreur. Non, ce n'est pas, c'est différent. Le combat que nous devons mener. Un appel à la vigilance. Un appel à la vigilance car l'ennemi de Dieu s'est glissé au sein de son corps, le corps de Christ, pour chercher à nous éloigner du plan divin. Ce que dit ici le serviteur de Dieu, la parole de Dieu dit au verset 4, « En effet, certains individus malfaisants se sont introduits discrètement parmi vous. Il déforme le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier les actions honteuses. Il rejette ainsi Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Il dit, il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui pèse sur eux, ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. Oui, nous voyons aussi le but de l'ennemi, le rejet de l'orthodoxie. La sainte doctrine qui nous aide à vivre dans la sainteté. Nous avons besoin de connaître la doctrine pour vivre dans la sainteté avec l'aide du Saint-Esprit, bien entendu. C'est la vie dans la sainteté qui fait notre force. Ces personnes ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Maître. Jésus-Christ reste dans ce monde le seul Maître, le seul Seigneur. Leur intention est de détourner le peuple de Dieu du droit chemin. Ce que nous voyons ici même, l'apôtre Paul, il reviendra là-dessus dans Actes, au chapitre 20. Il dit, « Je sais qu'après mon départ, des individus pareils à des loups redoutables s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. Et même dans vos propres rangs, des gens diront des mensonges pour entraîner ainsi des disciples à leur suite. Veillez donc et souvenez-vous que pendant 3 ans, jour et nuit, je n'ai pas cessé avec des larmes de mettre en garde chacun de vous. Prenez garde. Jésus-Christ doit rester notre Maître et Seigneur. Oui, le but de l'ennemi, c'est de nous détourner du droit chemin. Comment agit l'ennemi? La Bible nous appelle à la vigilance, bien sûr, parce que les méthodes de l'ennemi sont subtiles ici. La Bible nous dit qu'il s'est infiltré, il s'est glissé comme le serpent, le père du mensonge. Nous avons vu ici l'utilisation de la philosophie même. Il nous appelle bien sûr à la brièveté de la vie. Ce que nous avons lu, cet article de ce philosophe, son insistance sur le caractère précieux de la vie terrestre. Il dit certaines valeurs qui nous poussent même à dire amen. Quand il parle de l'amour, de la justice, des grands thèmes éthiques. Mais il nie ce qui fait notre force. Ce qui fait la force. Peut-on parler de l'amour et nier celui qui est l'amour même? Pouvons-nous parler de la justice et ne pas reconnaître le juste juge, le Dieu souverain et personnel? Mais j'aimerais mettre une mise en garde tout de suite avant de continuer que André Comte-Sponville et ses philosophes ne sont pas nos ennemis. Je ne rejette pas, et vraiment, on ne rejette pas la philosophie et autres. Ce ne sont pas nos ennemis. Non. La parole de Dieu nous met tellement en garde contre un certain enseignement qui peut avoir une influence négative pour nos âmes. Parce que cette philosophie peut s'accompagner d'une certaine promiscuité morale et physique. Parce que si tout s'arrête après la mort physique, vivons comme bon nous semble. Comme dira même l'apôtre Paul à son époque, c'était philosophe. Mais si Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc je peux faire ce que je veux. Non. Donc il y a une mise en garde contre une certaine conception aussi de la grâce. Oui, nous avons un Dieu de grâce. Un Dieu qui a pardonné, qui continue à pardonner nos péchés à ceux qui se repentent. Mais faisons attention, ce n'est pas une grâce à bon marché que je peux faire n'importe quoi parce que j'ai le Dieu de grâce. Oui, si Jésus-Christ est devenu notre Maître et Seigneur, nous sommes appelés à marcher selon ses principes. Nous sommes appelés à marcher selon ses commandements. L'ennemi s'est infiltré dans le corps de Christ. Mais l'ennemi, il sait qu'il est condamné. Oui, la Bible nous dit ici, toujours dans Jude, « Il sait l'ennemi, sait qu'il est condamné et cherche toujours à séduire le maximum de personnes. » Au verset 5 ici, il dit, « Certes, vous connaissez déjà parfaitement tout cela. Je tiens à vous rappeler que le Seigneur a sauvé une fois le peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais qu'il a fait mourir ensuite ceux qui n'eurent pas confiance en lui, ceux qui ont persévéré dans le rejet du Seigneur. Rappelez-vous les anges qui ne se sont pas contentés de la dignité de leur rang et qui ont abandonné leur demeure. Dieu les garde dans l'obscurité d'en bas, définitivement enchaînés pour le grand jour du jugement. Rappelez-vous Sodome et Gomorre et les villes voisines, leurs habitants se sont livrés de la même manière que ces anges à la débauche. Ils ont recherché des relations contre nature, des choses, de l'ordre des choses, ils subissent la punition d'un feu éternel. La Bible nous appelle à être vigilants. Ne nous laissons pas séduire par leurs rêveries. Oui, la Bible est catégorique sur l'état de ces incrédules. Il dit qu'ils sont entraînés par leurs rêveries, un état de confusion de l'âme, une imagination anormale qui produit le désordre dans le domaine des sens. Ils souillent leur chair comme Sodome et Gomorre, ils n'ont aucune retenue dans leur style de vie. Ils méprisent les autorités comme les anges justes. Ils sont déjà condamnés à vivre loin du Seigneur. Ici, donc, nous voyons un appel à la vigilance face à l'ennemi qui s'est infiltré dans le corps de Christ. Nous appelle ici, la Bible nous appelle, oui, sauver, mais être sur le qui-vive. Mais il y a aussi l'appel au combat. Tel que dans le milieu chrétien, ce sont des termes qui nous font souvent peur. À cause d'une confusion au Moyen-Âge, quand on parle des guerres dites saintes, que nous avons, les gens ont mené au nom de Jésus-Christ. Mais ne faisons pas de confusion. La Bible nous appelle ici au combat. Qui sont nos ennemis? Les combats que nous sommes appelés à mener sont d'origine spirituelle. L'apôtre Paul insistera même, nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Quel type d'armes utiliser? Comme le combat est d'ordre spirituel, les armes utilisées sont aussi d'ordre spirituel. Doivent être aussi d'ordre spirituel. Je reprends toujours l'apôtre Paul, qui est vraiment d'une manière claire. Il dit, dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine, mais elles sont puissantes grâce à Dieu. Elles permettent de détruire ces forteresses que sont les faux raisonnements, mais aussi les philosophies, tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine, mais elles sont puissantes grâce à Dieu. Ce sont des armes spirituelles qui combattent l'ennemi de Jésus-Christ, les ennemis de la vérité. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Il y a une emprise spirituelle, oui. Il y a les séductions qui sont exercées par des forces de ténèbres sur nous. Mais ces œuvres de ténèbres ne peuvent être vaincues que par des armes spirituelles employées par les enfants de Dieu. Nous voyons aussi des types d'armes. Les armes données par Dieu. La raison pour laquelle nous sommes appelés à combattre, ici, la parole de Dieu nous dit dans Jude, au verset 3, j'avais un vif désir de vous. Je me suis vu dans l'obligation de vous adresser cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi que Dieu a donnée une fois pour toutes à ceux qui lui appartiennent. Nous sommes appelés à combattre pour la défense de la foi. Défense de la vérité, cette vérité acquise une fois pour toutes, la parole de Dieu. La vérité acquise, c'est la marche, la vérité acquise une fois pour toutes, dans la marche dans la sainteté. Comme ça que nous combattons l'ennemi. La marche dans la sainteté, la divinité, reconnaître la divinité de Jésus-Christ qui reste le seul maître et seigneur dans nos vies. La souveraineté de Dieu dans ce monde. Oui, ce sont des paroles que l'ennemi n'aime pas entendre, que Dieu est souverain, que Jésus-Christ est divin et que les enfants de Dieu doivent marcher dans la sainteté. Cette vérité biblique doit modeler notre manière de vivre. Nous sommes appelés à défendre cette foi donnée au Saint une fois pour toutes. Bien sûr, la manière de défendre cette vérité, je me répète ici, nous le voyons ici, c'est la lecture régulière de la parole de Dieu. Nous devons connaître la vérité pour l'opposer au mensonge, pour l'opposer à la séduction de Satan, annoncer la vérité, vivre dans la vérité. Pas le moyen de la vérité, mais par l'amour aussi pour Dieu. Manifester l'amour de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu le dit. La Bible dit, insiste bien, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le monde doit voir que nous sommes chrétiens et que nous gardons les commandements de Dieu. Nous vivons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mener une vie de piété, une vie de prière, une vie de reconnaissance pour l'œuvre de Dieu dans nos vies. En ce moment de tristesse, ce moment aujourd'hui où tout le monde a peur, mais si nous vivons dans la reconnaissance, reconnaître que Dieu travaille dans nos vies, ça interpelle le monde. Vivre dans la piété. Vivre aussi par le témoignage. Jude au verset 22 nous dit ici, « Soyez bienveillants envers ceux qui hésitent. Il en est d'autres que vous pouvez sauver en les arrachant du feu. À d'autres encore, montrez également de la bienveillance, même bienveillance mêlée de crainte. Évitez tout contact, même avec leurs vêtements tachés. » Par les mauvais penchants. Ici, l'appel au témoignage. Oui, depuis que le péché est entré dans le monde, les jours sont devenus mauvais. Les personnes sans Christ doivent entendre qu'il y a un Dieu personnel, qu'il y a un Dieu miséricordieux, un Dieu qui les aime. La Bible nous insiste, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils le comprennent. La parole de Dieu ne nous recommande pas à s'attaquer aux démons ou à t'attaquer à Satan, mais de combattre l'erreur, les stratégies de Satan par la vérité de la parole de Dieu. La seule épée à deux tranchants qui est vivante et efficace. Oui, il y a une urgence aussi au salut. Il y a des brebis du grand berger qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie. Mais nous devons aller les chercher. Nous devons aller les chercher par l'annonce de l'évangile, bien sûr toujours accompagné de prières, par notre vie, je l'ai dit, par notre vie de piété, par une urgence du témoignage. Il faut toujours qu'il y ait une cohérence entre ce que nous annonçons et ce que est notre manière de vivre. Oui, frères et sœurs, c'est un moyen de témoigner aussi. Ce que nous annonçons doit être toujours en cohérence avec ce que nous vivons. Nous sommes appelés à combattre, mais nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas seuls dans le combat. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. celui qui nous a sauvés, qui nous a fait la grâce de devenir ses enfants, qui nous donne son Esprit Saint, est avec nous dans ce combat, dans cette marche dans la sanctification, dans cette marche d'attente. Nous avons le Seigneur avec nous. Nous avons un Dieu unique. Et c'est ce que dit encore son serviteur, nous avons un Dieu unique. Il est unique par sa grandeur. Il a une supériorité absolue. Il est unique par sa puissance. C'est lui qui a la capacité de réaliser tous ses plans. Il est unique par son autorité. Comprenez l'apôtre Paul qui dira, « Mais qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Personne ne pourra nous séparer de Christ. Nous sommes aimés et gardés par ce Dieu unique pour Jésus-Christ. Nous sommes aimés et gardés. Personne ne peut nous arracher de sa main. Oui, comme notre serviteur du Seigneur nous le rappelait dimanche dernier, c'est vrai, même ce corps peut être anéanti. Mais notre âme reste gardée. La parole de Dieu insiste sur le fait que nous sommes gardés par Dieu pour Jésus-Christ. Ce Dieu unique est celui qui nous protège de toute chute. Oui, ce que nous disons toujours en tant que chrétiens évangéliques, nous croyons à la persévérance du chrétien jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Certains diront l'assurance du salut. Rien ne peut nous arracher de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je me termine en ce temps de l'Avent qui nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ est la porte. Je dirais simplement, frères et sœurs, vivons dans l'humilité, vivons dans la sobriété, vivons dans cette attente active, cette attente active qui passera toujours par la méditation de la parole de Dieu, afin que nous soyons toujours imprégnés de la pensée de Dieu. En ce temps d'attente, c'est l'avant là, la prière, vivre dans la prière, afin que nous soyons toujours focalisés sur l'essentiel. Que ça ne soit pas l'état séculier qui nous rappelle ce qui est essentiel et ce qui est non essentiel. Non, dans ce moment d'attente, nous devons rester vraiment focalisés sur ce qui est essentiel. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence. Oui, bientôt, en sa glorieuse présence, il n'y aura que la joie. Je serai comblé, je laisserai éclater ma joie, je t'acclamerai, Seigneur. Nous serons comblés, mais il vient bientôt, il est à la porte, notre Seigneur. Alors vivons cette attente de ce retour du Seigneur dans la confiance, en restant des ambassadeurs de réconfort dans ce monde triste, en restant des ambassadeurs de paix, des ambassadeurs d'espérance. Ce monde a besoin. Nous nous sommes gardés, mais le Seigneur a encore des brebis qui ne sont pas encore rentrées dans le troupeau. Nous devons aller vers elles. Nous devons prier pour elles. Nous devons témoigner afin qu'ils viennent à Jésus-Christ. Parce que quand il sera là, il y aura plein de joie en sa présence. Amen.